On y va? On rentre? Alors on rentre. Allez mes amis, à nous.
Les philosophes amoureux, par Raphaël Antoven, assisté de Julien Tricard, sur la grande scène du théâtre de l'Europe, rien de moins. À la réalisation, François Connac. Aujourd'hui, Socrate et Alcibiade, ou Alcibiade et Socrate, c'est selon, par Nicolas Grimaldi, avec à la lecture Georges Clès et Polydoros Vogiatsis. Les purs esprits ont également un corps. Pour être philosophes, ils n'en sont pas moins hommes, disent les imbéciles, ravis, comme d'une surprise, de constater que l'amour de la sagesse ne guérit pas des passions ordinaires. Or, non seulement la philosophie n'empêche pas les chagrins d'amour, mais elle a même pour vertu d'en aiguiser l'amertume, au point d'en faire à l'occasion la source vive d'un questionnement, d'une connaissance, dont le corps, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire l'âme, est le fil conducteur. D'ailleurs, la philosophie elle-même est un chagrin d'amour, puisqu'elle est amour de la sagesse, et qu'être philosophe, c'est avoir la sagesse de regretter que la sagesse nous échappe. Tout ça pour dire qu'on a toujours tort de faire à une pensée le procès de l'existence qui lui a donné le jour, et qu'un système ou un antisystème qui aurait la pauvre propriété de nous rendre inaccessibles aux joies comme à la tristesse ne mériterait pas une heure de peine. Le petit trou du sentiment amoureux n'est pas un trou de serrure, mais une voie royale pour entrer dans une pensée. Nietzsche, Heidegger, Diderot, Socrate et Rousseau sont d'autant plus philosophes qu'ils ont aimé et souffert d'aimer, jugé plus tôt.
La première fois qu'Alcibiade vit Socrate, il le trouva, à juste titre, franchement laid. Socrate est plus que laid, il est séduisant. Et plus que beau, il est sensuel. Il n'embrasse pas, mais il embarrasse. En épousant les contours d'une laideur qui n'est pas seulement le cache-sexe de la beauté, mais d'une certaine manière la beauté en soi, le lecteur, l'élève, l'amant, l'admirateur passe de la métaphysique à l'incantation, de la science à la magie. La laideur de Socrate, libérant son visage de la tyrannie des formes, donne au philosophe la puissance des sorciers.
Οράται γάρ ότι Σοκράτης ερωτικός διάκειται των καλών και αείπερι τούτους εστί και εκπέπληκτε και αβαγνοεί πάντα και ουδέν είδεν. Είστε ότι ούτε ήτης καλός έστι μέλη αυτό ουδέν, αλλά καταφρονεί το σούτον, όσον ουδάν εις ηηθεί. Ούτε ήτης πλούσιος, ούτε η άλλην τιμή, τιμήν έχω, των υποπλήθους μακαριζομένων. Ποιήσαντος δε διτάφτα εμού, ούτως το σούτον περιεγένε τότε και κατεφρόνησεν, και κατεγέλασεν της εμείς ώρας και ύβρισεν, και περί εκείνο γεώμην τι είναι ο άνδρες δικαστέ. Δικαστέ γαρέστε της Σοκράτους υπερηφανίας. Ευγαρίστε μα Θεούς, μα Θεάς, ουδέν περιτότερον κατά δεδαρθικός ανέστην με τα Σοκράτους ή η με τα πατρός καθήβδων ή αδελφού πρεσβυτέρου.
Vous observez en effet qu'un penchant amoureux mène Socrate vers les beaux garçons. Comme je croyais qu'il était sérieusement épris de la fleur de ma jeunesse, je crus que c'était pour moi une aubaine et une chance étonnante. Je m'étais mis dans l'idée qu'il me serait possible, en accordant mes faveurs à Socrate, d'apprendre de lui tout ce qu'il savait. Car, bien entendu, j'étais extraordinairement fier de ma beauté. Ayant donc réfléchi là-dessus, moi qui jusqu'alors n'avais pas l'habitude de me trouver seul avec lui sans être accompagné d'un serviteur, cette fois-là, je renvoyais le serviteur et me trouvais tout seul avec lui. Je l'invite donc à dîner avec moi, tout comme un amant qui veut tenter quelque chose sur son bien-aimé. J'ajoute qu'il ne mit même pas d'empressement à l'accepter. Pourtant, au bout d'un certain temps, il finit par accepter. La première fois qu'il vint, il souhaita partir après avoir dîné. Alors j'eus honte. Je le laissai partir. Mais je fis une nouvelle tentative. Quand il eut fini de dîner, je prolongeai la conversation jusqu'à fort tard dans la nuit, et lorsqu'il souhaita s'en aller, je fis observer qu'il était tard et je le forçai à rester. Il reposait donc sur le lit qui touchait le mien et où il avait dîné. Personne ne dormait dans la pièce que nous deux. Lors donc, messieurs, que la lampe fut éteinte et que les serviteurs furent partis, j'estimais qu'avec lui, il ne fallait pas y aller par quatre chemins, mais lui faire savoir en toute liberté ce que j'estimais avoir à lui faire savoir. Et En le poussant, je lui dis « Socrate, tu dors ?»« Pas du tout, » me répondit-il. « Sais-tu à quoi je pense ?»«
À quoi donc, au juste ?»«
Je pense, repris-je, que tu es un amant digne de moi, le seul qui le soit. Et je vois bien que tu hésites à m'en parler. En ce qui me concerne, voilà ce qu'il en est. J'estime qu'il est tout à fait déraisonnable de ne point céder à tes vœux sur ce point aussi. Rien, à mes yeux, ne présente plus d'importance que de devenir le meilleur homme possible. Et j'imagine que dans cette voie, je ne puis trouver maître qui soit mieux en mesure que toi. » Il m'écouta, prit son air de faux naïf qui lui est si caractéristique, et dans le style qui lui est habituel, il me fit cette réponse. « Mon cher Alcibiade, tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable et bien différente de la grâce que revêt ton aspect physique. Si donc, l'ayant aperçu, tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est la beauté véritable que tu entreprends d'acquérir. Et en réalité, tu as dans l'idée de troquer de l'or contre du cuivre. Mais, bienheureux ami, fais bien attention de peur que tu n'ailles t'illusionner sur mon compte, car je ne suis rien. La vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Et tu en es encore loin. Au vu des efforts que moi j'avais consentis, sa supériorité à lui s'affirmait d'autant. Il dédaignait ma beauté, il s'en moqua et se montra insolent à cet égard. Sachez-le bien, messieurs les juges, je le jure par les dieux, par les déesses, je me levais, après avoir dormi aux côtés de Socrate, sans que rien de plus ne se fût passé que si j'avais dormi auprès de mon père ou de mon frère aîné.
Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano. Jouez Chopin avec dédain. Égrenez vos accords et s'il s'endort, alors la foutez-le dehors.
Nicolas Grimaldi, pour quelle raison le vilain Socrate, pourquoi diable et comment se fait-il que le vilain Socrate refuse de coucher avec le bel Alcibiade? Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour ne pas céder à une telle aubaine?
Pour une raison qui a été expliquée un peu auparavant dans le discours de Pausanias.
Dans le banquet, hein, le texte qu'on a entendu est dans le banquet.
Et qui est longuement expliqué dans un dialogue éponyme qui s'appelle l'Alcibiade. Dans ce dialogue, Alcibiade reproche à Socrate, comment dirais-je, son comportement incohérent, incompréhensible, quasiment de sa duplicité. C'est-à-dire, tu déclares mon amoureux, et néanmoins, tu ne t'empresses jamais auprès de moi, tu ne me fais jamais de cadeaux, tu es plutôt critique que louangeur. Socrate lui répond, alors que ta beauté, ta séduction, ta grâce, ton charme attire des dizaines d'amants qui ne cessent de t'accompagner, qui te font cortège où que tu ailles. À peine commenceras-tu à vieillir, à te rider, tes cheveux commenceront-ils à tomber, que tu les verras disparaître l'un après l'autre. De sorte que ce qu'ils aimaient en toi était quelque chose qui n'était pas toi, mais que tu avais reçu de manière fugace, transitoire, éphémère. Et moi, tu le verras, alors, moi seul, continuerai de t'aimer. Alors le dialogue va dériver, car qu'est-ce qu'un homme? Et la réponse sera, un homme, c'est uniquement son âme. Dans un autre dialogue, un des derniers dialogues de Platon, le Timée, Platon explique comment l'âme fut créée. Alors, comme c'est un mythe, il suppose qu'un démiurge avait pris les deux éléments primordiaux, originaires, l'élément du même et l'élément de l'autre. Le même, toujours identique, immuable et par conséquent éternel. Parce qu'il est éternel, il n'est pas corruptible, il n'est pas divisible, donc il n'est pas matériel. Il est donc spirituel, intelligible. Et il est unique. Et l'élément de l'autre, C'est aussi bien ce qui fait l'altérité que ce qui fait l'altération. L'altérité, ce qui est toujours autre que l'autre, c'est le multiple. C'est ce qui n'en finit pas, c'est l'innombrable. Et l'altération, ce qui fait que toute chose change sans cesse, c'est le devenir. Le démiurge prit ces deux éléments, les mêla, puis mêla une fois encore ce troisième élément aux deux premiers, il obtint un quatrième élément, ce fut l'âme. L'âme est donc le mélange de mélange. Si on peut dire que l'âme tend vers l'éternité comme vers son modèle, ce modèle, l'élément du même, c'est l'élément paternel, ce à quoi l'âme s'efforce de ressembler. Mais l'âme a été plantée, si j'ose dire, dans l'élément de l'autre, et l'autre, c'est ce dans quoi l'âme a été fabriquée, tissée. Donc l'âme est, dans la matérialité du devenir, ce qui a l'éternité pour modèle. Elle tend de s'unir à lui, mais évidemment qu'elle n'y parviendra jamais. Tout ceci pour vous faire pressentir que l'âme qui tend sans cesse vers ce à quoi elle ne parviendra jamais, l'âme est attente. L'âme est désir. Alors il y aura évidemment deux sortes de désir. Le désir de l'aventure, le désir de l'innombrable, mais c'est un désir toujours malheureux, parce que tant et tant de choses que vous collectionnez, vous ne parviendrez jamais au tout par la suite des nombres. De sorte que quand Socrate dit à Alcibiade que ce qu'il aime en lui, c'est son âme, il nous faut entendre que ce que j'aime en toi, c'est l'exaspération de ton attente. Et en effet, à qui connaît Alcibiade, on sait que tout serait à peine suffisant pour satisfaire son attente. Conquérir Athènes, mais Athènes ne serait qu'en commencement, il faudra envahir la Sicile, il faudra la Libye, l'Asie lui offrira encore un champ à son attente. Un désir aussi insatiable, aussi effréné, prédispose le jeune Alcibiade à la philosophie. Et ce qu'entreprend Socrate, c'est à lui faire éprouver, à lui faire sentir, pour lui faire comprendre, que la véritable destination de son âme, la seule chose qui pourrait répondre à son attente, ce serait l'éternité intelligible des idées, la connaissance du bien, de la justice. Et voilà pourquoi il privilégie Alcibiade parmi une douzaine d'autres jeunes gens, presque tous aussi charmants que lui, mais en qui l'attente n'est pas si exaspérée qu'en lui.
En d'autres termes, c'est par excès d'érotisme et non par suppression de l'érotisme que Socrate donne à Alcibiade une première leçon de philosophie, au terme de laquelle c'est par amour que deux êtres qui s'aiment ne font pas l'amour.
Très bien, c'est vous qui l'avez dit, par érotisme. En effet, l'éros a été défini comme le désir du bien. Tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui possède quelques perfections, nous l'aimons, nous en avons l'amour. L'éros consiste à vouloir rendre sien toute perfection, toute beauté que nous voyons hors de nous. Toutefois, une telle explication est presque tout aussitôt corrigée par ce que dit Diotime, l'étrangère de Mantinée que vous veniez d'évoquer, lorsqu'elle dit à Socrate que ce que les hommes cherchent dans l'amour, c'est à échapper à la mort et peut-être plus encore à leur solitude, en s'efforçant de se perpétuer en un autre, ce qu'il appelle désir d'immortalité. Mais Socrate corrige aussitôt, ce n'est pas que nous espérions rester semblables, car nous changeons sans cesse. Je ne veux pas me perpétuer dans l'identité de ce que je suis, mais continuer. Que quelque chose de moi se perpétue, me survive en un autre. Autrement dit, ce que l'amour désire, c'est se transfuser en un autre. Et Diotime complète alors, or jamais cela ne s'opère autant que dans l'éducation. Car jamais aucun fils n'appartient autant à son père qu'un disciple à son maître.
Écoutez plutôt le discours sur Eros que nous avons entendu un jour de la bouche d'une femme de Mantinée.
Ο Έρος ή μεταξύ θνητού και αθανάτου. Δαίμον μέγας, ο Σόκρατες. Και γάρ πάντο δαιμόνιον μεταξύ εστί θεούτε και θνητού. Δυο δίκαι της Αφροδίτης, ακόλουθος και θεράπων, γέγονεν ο Έρος. Γεννηθείς εν της εκείνης γενεθλίης. Και άμα αφήσει εραστής όν περί το καλόν και της Αφροδίτης καλή σούσης. Άτε ούν πόρου και παινίας, ιός όν ο Έρος εν τη αυτή τύχη καθέστηκεν. Πρώτον μεν, παίνει σαΐεστη, και πολλούδι απαλώστε και καλός, ιον οι πολλοί ίονται. Αλλά σκληρός και εχμηρός και ανυπόδητος και άϊκος, χαμεπετή σαΐον και άστρωτος. Ούτε απορεί ποτέ αίρος, ούτε πλουτή. Σοφίας θεάβ και αμαθίας εν μέσω εστίν. Έχει γαρόδε. Θεόν ουδής φιλοσοφή, ούδε επιθυμεί σοφός γενέστε, έστι γαρ. Ούδε της άλλος σοφός ου φιλοσοφή. Ούδε άβια μαθής φιλοσοφούσιν, ούδε επιθυμούσιν σοφή γενέστε. Αυτό γάρ, τούτο έστιχα λεπών αμαθία. Το μειώντα καλών και αγαθών, μη δε φρόνιμον δοκίν, αυτό είναι ικανόν. Ούκουν επιθυμεί ο μη ιόμενος ενδεείς είναι, ου αν μη ήείτε επιδίστε.
Eros est un intermédiaire entre le mortel et l'immortel. C'est un grand démon, Socrate. En effet, tout ce qui présente la nature d'un démon est intermédiaire entre le divin et le mortel. Quel est son père, repris-je, et quelle est sa mère? Il faut savoir que le jour où naquit Aphrodite, les dieux festoyaient. Parmi eux se trouvait le fils de Métis, Poros. Or, quand le banquet fut terminé, arriva Pénia, qui était venue mendier, comme cela est naturel, un jour de bombance, et elle se tenait sur le pas de la porte. Or, Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore à cette époque, se traîna dans le jardin de Zeus et, appesanti par l'ivresse, s'y endormit. Alors, Pénia, dans sa pénurie, eut le projet de se faire faire un enfant par Poros. Elle s'étendit près de lui et devint grosse d'Eros. Si Eros est devenu le suivant d'Aphrodite et son servant, c'est bien parce qu'il a été engendré lors des fêtes données en l'honneur de la naissance de la déesse. Et si en même temps il est par nature amoureux du beau, c'est parce qu'Aphrodite est belle. Puisque donc il est le fils de Poros et de Pénia, Eros se trouve dans la condition que voici. D'abord, il est toujours pauvre. Et il s'en faut de beaucoup qu'il soit délicat et beau, comme le croient la plupart des gens. Au contraire, il est rude, malpropre, va-nu-pied, et il n'a pas de gîte. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent. C'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses. Il est passionné de savoir et fertile en expédients. Il passe tout son temps à philosopher. C'est un sorcier redoutable, un magicien et un expert. Aussi, Eros n'est-il jamais dans l'indigence ni dans l'opulence. Par ailleurs, il se trouve à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. Si l'on est savant, on n'a pas besoin de tendre vers le savoir. Les ignorants ne tendent pas davantage vers le savoir ni ne désirent devenir savants. Mais c'est justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance. Alors que l'on n'est ni beau, ni bon, ni savant, on croit l'être suffisamment. Non, celui qui ne s'imagine pas en être dépourvu ne désire pas ce dont il ne croit pas devoir être pourvu.
Eros, fils du plein et du vide, est par définition philosophe. Dans la mesure où, au plein et au vide correspondent le savoir et l'ignorance, l'homme qui sait qu'il sait, l'homme qui ignore, ignore qu'il ignore, par conséquent, ni l'un ni l'autre ne désire savoir. Pour désirer savoir, il faut être dans la situation intermédiaire qui est celle d'Eros et également celle du philosophe, c'est-à-dire savoir qu'on ignore. Ce qui, d'ailleurs, permet de fonder la philosophie comme amour de la sagesse, donc comme amour de ce dont on manque. Par conséquent, la philosophie manque de sagesse. En d'autres termes, c'est un amour fou.
Cet amour que vous dites, amour de la sagesse, en termes platoniciens, la sagesse consisterait, chez Platon, mais en général, chez les Grecs anciens, à la fois à être juste et à acquérir ou à jouir du bonheur, à se rendre capable de bonheur. cette sagesse à laquelle on aspire, parce que l'âme est attente, nous l'avons vu, c'est celle qui mettrait fin à l'attente. Ce qui nous procurerait enfin, ce qui ne laisserait plus rien à attendre, c'est-à-dire l'éternité, à quoi on ne peut rien ajouter, la plénitude qui déborderait si on y ajoutait quoi que ce fût, et en même temps la béatitude. Et pourquoi Alcibiade est-il amoureux de Socrate, lequel est laid ? Parce que, et c'est ce qui fait le charme de Socrate, Socrate ne ressemble à personne, il n'y en a pas deux comme lui. Il est à la fois laid et très beau. À l'écouter, on croirait qu'il ne sait rien, et en fait, on se rend compte qu'il sait tout. C'est un homme, de surcroît, qui semble ne rien désirer pour lui. À la bataille de Potidée, il s'expose à la mort pour sauver Alcibiade, et lorsqu'on s'apprête à lui donner une décoration, il dit non, donnez-la plutôt à Alcibiade, ça lui fera plaisir. Bon, je n'ai besoin de rien, etc. Là où Alcibiade confesse l'essentiel du magnétisme exercé par Socrate, si lorsqu'il dit il ressemble à un silène ou à un satyre qu'on trouve dans les ateliers de sculpteurs, extérieurement grotesque, et lorsqu'on les en trouve, ce sont des merveilles. Et si le satyre Marsyas passe pour être un flûtiste qui envoûte ceux qui l'écoutent, Marsyas n'est rien auprès de Socrate, dont les discours nous enchantent, nous captivent, nous envoûtent, nous ensorcellent, au point que un véritable délire bachique, une sorte de délire dionysiaque s'empare de nous lorsque nous l'écoutons. Et c'est cela qui fait le charme de Socrate. C'est un enchanteur, il y a un mot qui revient très souvent chez Platon pour désigner ce caractère de Socrate, c'est « hépodé ». C'est-à-dire l'enchanteur, et lorsque Socrate est sur le point de mourir, il dit à ses disciples, à ceux qui sont auprès de lui, « Eh bien, hâtez-vous de trouver désormais un autre enchanteur. » Cet enchanteur, dit l'un des protagonistes de Socrate, Phédon, il nous a guéris. Il y a une sorcellerie socratique. Ce qu'il nous faut donc comprendre, ici, et nous tenterons peut-être de l'élucider si nous en sommes capables, c'est que les discours de Socrate procurent une transe rhétorique en tout semblable à ce que procure la transe voluptueuse dans l'union des corps. À savoir, on ne s'appartient plus. Et ce qui fait que c'est fascinant, merveilleux, qu'on ne peut pas s'y arracher, qu'on ne peut pas s'y soustraire, c'est que quand on l'écoute, mais de quoi il vous parle ? Il vous parle de la vie éternelle, il vous parle de la justice éternelle, du beau qui n'est que beau, etc. Il vous parle donc de l'absolu. Or, qu'est-ce qu'attend l'âme qui n'est qu'attente ? Elle attend ce qui ne laisserait plus rien à attendre. Et ce qui ne laisserait plus rien à attendre, c'est précisément ce dont l'entretient Socrate, à savoir les différentes figures de l'absolu. Voilà en quoi ce qui fait le chamanisme socratique, voilà ce qui fait sa sorcellerie, et voilà ce qui fait, si j'ose dire, son charme.
Il faut s'interroger néanmoins sur les effets de ce charme. La contradiction que vous pointez n'est pas la seule contradiction de Socrate, Nicolas Grimaldi. Rappelons un tout petit peu, Socrate est un convive raffiné, extrêmement bien élevé, qui arrive toujours en retard. C'est un homme qui a de quoi vivre et qui vit avec un manteau et un bâton comme un démuni. C'est un homme qui paralyse et qui éveille. Il est à la fois torpille et tant, T-A-O-N. Hein. Il est moustique et en même temps animal paralysant. C'est un saint qui ne prêche rien. C'est un prophète sans message. C'est un sectateur sans dogme. C'est un homme politique intègre que la politique dégoûte. Je suis pas sûr que ce soit contradictoire, ça, pour le coup. C'est un résistant sans engagement. C'est un héros sans cause. C'est un sage qui sait boire. C'est un maître sans élève. C'est un rationaliste qui suit tout le temps, toujours, les injonctions de sa muse ou de son démon. C'est un révolutionnaire hyper légaliste, tellement légaliste qu'il en vient à accepter une condamnation dont il a patiemment montré à ses juges combien elle était injuste. Enfin, c'est un partisan du bien qui est quand même le pire ennemi des bien-pensants. Et puis, vous l'avez dit, c'est un philosophe, mais c'est un sorcier. De sorte que c'est un penseur, mais que la pensée qu'il promeut, qu'il met en scène, relève peut-être, en un sens, de la pensée magique. Et si Socrate a du charme, il a surtout, peut-être, en tout cas, le défaut, entre guillemets, de mettre Alcibiade sous son charme. Et par conséquent, peut-on dire de Socrate qu'il éveille Alcibiade ou qu'en un sens, il se sert de lui, qu'il le manipule ou qu'il l'humilie ? Comment il faut faire droit à la critique, pour le coup nietzschéenne, de Socrate, qui disait tout simplement que Socrate, parce qu'il était laid,
humiliait à coups de dialectique la beauté de ses interlocuteurs.
Alcibiade dit, et en même temps, chaque fois que je rencontre cet homme, moi qui suis si fier de mon élégance, de ma séduction, j'ai honte devant lui. J'ai honte par rapport à l'image qu'il a de moi, par rapport à ce qu'il attend de moi, par rapport aux fins auxquelles il me destine, j'ai honte de chercher à séduire le peuple, j'ai honte de chercher les applaudissements, j'ai honte de poursuivre des fins prosaïques et mondaines alors qu'il m'assigne à un destin d'outre-monde. En continuant de poursuivre l'innombrable, après être venu maître d'Athènes, tu voudras être maître de la Sicile, puis ensuite de la Libye, puis ensuite de Sparte, puis ensuite de l'Asie. Et après, ça n'en finira pas. Tu n'arriveras jamais au bout. On n'arrive jamais au bout de l'infini. C'est comme vouloir avoir le plus grand nombre. Par conséquent, tu vois, tu t'égares. La seule chose qui soit digne de ton attente, c'est ce que tu pourrais posséder dans la plénitude de son éternité. Et par conséquent, devenir philosophe en recherchant la vérité.
Oui, mais qui s'égare ? Est-ce Alcibiade, fasciné par les gratifications immédiates, par les satisfactions mondaines, par les succès militaires, par la gloire, par les beaux jeunes gens qu'il est aisé de séduire, ou bien Socrate qui fait croire à Alcibiade qu'il leur tourne le dos alors qu'il n'en fait rien, lui-même est mondain, lui-même aime bien les jeunes garçons, quand il voit Charmide, il dit, je ne sais plus, je crois que c'est Criton qui, pour lui être agréable, lui dit, mais veux-tu Socrate qu'on le déshabille pour que tu admires encore mieux sa beauté? Socrate lui dit, non, d'abord, on va lui déshabiller l'âme. Donc, voilà un homme qui, lui-même, ne renonce à aucun plaisir dont il enseigne, dont il professe la vacuité, à part le fait de coucher avec Alcibiade, il ne renonce à aucun plaisir. Qui s'égare, en définitive? Et puis, quand Socrate parle avec Hippias et qu'il lui demande ce qu'est la beauté, Hippias lui dit, la beauté, c'est une belle vierge. Évidemment, Socrate ne s'en satisfait pas, et en terminale, il est d'usage de dire, est-il bête, cet Hippias, de confondre la beauté avec une belle vierge? Mais la beauté est-elle envisageable séparément du corps qu'il incarne, qu'il exprime ou qu'il la signifie? Est-ce qu'au fond, les désirs d'Alcibiade, comme ceux de Calliclès dans le Gorgias d'ailleurs, est-ce qu'au fond les désirs d'Alcibiade ne sont pas chez Alcibiade l'expression d'une aptitude au présent, à la réalité, au monde sensible, que sa précarité ne doit pas nous détourner d'aimer, alors que la sagesse de Socrate témoigne d'un dégoût qui ne l'engage pas à l'endroit de ce qui est éphémère, au profit de ce qui n'est pas éphémère mais qu'on ne peut pas saisir.
Qu'Alcibiade, contrairement à Socrate, et l'intuition ou le discernement de jouir de l'instant dont on ne jouera pas, jamais deux fois, aimer ce qu'on ne verra jamais deux fois. Précisément, c'est ce que toute l'existence d'Alcibiade dément. Alcibiade n'est jamais satisfait de rien. Un siècle exactement sépare Alcibiade d'Alexandre. Mais s'il avait connu Alexandre, s'il avait pu pressentir les conquêtes d'Alexandre, c'est exactement ce qu'aurait voulu être Alcibiade. À moins de tout, rien n'est assez. Ce qui fait que le présent ne peut être qu'insatisfaisant pour Alcibiade. Il veut toujours autre chose. C'est, comment dirais-je, c'est le désir d'une contingence infinie. D'autre part, si on pensait qu'Alcibiade, raisonnablement, ne séparait pas la beauté de la chose, du corps dans lequel elle s'incarne, on ne comprendrait pas que rien pût répondre à l'attente d'Alcibiade. Je voudrais, si vous m'y autorisez, attirer votre attention. C'est une chose que Sartre lui-même évoque furtivement dans L'être et le néant. C'est que tout langage, toute énonciation se réfère à un sens absolu qui dégénère dans la chose que nous citons, que nous nommons. Si je dis « cette eau est froide », je me réfère à la notion du froid. Et une notion de froid à laquelle toutes les choses froides participent plus ou moins relativement. Donc, c'est par rapport au froid absolu que je peux dire, par analogie, et en quelque sorte par dérivation, que ce liquide est froid. Ainsi en va-t-il de toute chose, de la justice, de la beauté. Tout langage porte en lui une distinction imperceptible, que nous n'observons pas, une distinction entre le sens absolu que nous désignons et auquel nous référons la chose, et le sujet auquel nous la rapportons. De sorte que le réel que nous nommons, que nous désignons, le réel ne peut être vécu que comme dérivé, précaire, relatif par rapport à ce que le langage y désigne. C'est-à-dire, dans un corps, ce qui n'est pas le corps. Par ailleurs, si beau que soit un corps qu'on puisse posséder, le corps d'une personne aimée, cette beauté n'est que transitoire, éphémère, précaire, et un jour elle s'en éventera, s'en évaporera.
Mais est-ce une raison pour lui tourner le dos? C'est ça que je ne comprends pas. Tourner le dos, c'est une métaphore
étant,
ici. Hein.
Étant Socrate, comme vous le supposiez, je dois vous en avertir, cette beauté, un jour, vous décevra, de sorte que vous en choisirez une autre. Vous dites que Alcibiade pourrait se satisfaire des plaisirs dont il jouit au moment même dont il en jouit. Socrate ne peut que le mettre en garde contre la dialectique, pardonnez-moi ce mot, contre la dialectique calamiteuse du plaisir. Car le propre du plaisir est qu'on en jouit d'autant moins qu'on en a joui davantage. Plus ce plaisir se sature et m'empêche d'en jouir. De sorte que, si j'ose dire, la lie est au fond de la coupe. Par ailleurs, infinis sont les plaisirs possibles. Et finis, bornés, limités, et ma capacité d'en jouir. Plus je mange, malheureusement, moins j'ai faim. C'est ce qui fait que mon désir, si j'ose dire, est toujours insatisfait.
On retrouve ce modèle chez Descartes, dans La cause de l'erreur. La cause de l'erreur qui est l'écart entre l'infinité de la volonté et les limites de mon entendement. Mais si le plaisir s'épuise par sa multiplication, faut-il pour autant, au nom d'un plaisir véritable, en ajourner la satisfaction? Est-ce que, entre un plaisir qui s'épuise par sa multiplication et un plaisir qui s'absente parce que sa précarité nous en détourne, le choix est pour le coup véritablement un choix de vie qui engage finalement des décisions tout à fait prosaïques, pardonnez-moi de le dire prosaïquement comme ça, c'est le seul mot prosaïque et savant que le langage, dont le langage dispose, mais c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle des amours vulgaires et l'amour platonique.
Ce que Pausanias avait désigné comme les amours célestes qui ne s'adressent qu'aux âmes et dont généralement les hommes seuls sont capables, dit-il. Et d'autre part, les amours populaires, pandémiennes, vulgaires, qui se satisfont de n'importe quel corps, n'importe où, à n'importe quel moment. Il me semble néanmoins que Socrate vous aurait répondu, ce qu'il fait à Alcibiade, à savoir que si on s'attache à des biens dont on ne peut jamais jouir dans leur plénitude, selon l'image que j'avais osé emprunter, la lie, l'amertume est au fond de la coupe. Donc c'est un bonheur, mais un bonheur approximatif, un bonheur qui s'évente, qui s'évapore, un bonheur à court terme.
Est-ce à dire, donc, puisque l'amertume nous est promise au terme de la recherche du bonheur, qu'il faut donc commencer par elle?
Ce qui fait que je me suis attaché à toi, Alcibiade, c'est que j'ai reconnu en toi une attente qui n'a sa pareille en aucune autre. Tu es insatiable. Précisément pour cette raison, cette recherche de la satiété, de ce qui ne laisserait plus rien à attendre ni à désirer, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut la chercher. C'est du côté de l'intelligible, du côté de la vérité. Et c'est pourquoi, quand Alcibiade propose à Socrate, on va faire un échange, beauté contre beauté, et Socrate lui répond, un bel échange, tu me donnes ton apparence de beauté contre une beauté véritable, car la mienne ne changera jamais, elle est incorruptible. Donc c'est un échange très illégal, c'est un marché de dupes. Pourquoi Socrate choisit-il cette voie et non pas celle d'Alcibiade? Pourquoi la recherche d'un bonheur dont on ne peut jouir que dans l'intelligible et dont on ne jouira totalement qu'après la mort? Après la mort. Plutôt que ces plaisirs qui s'offrent à la portée de ma main, dont je pourrais jouir dans le moment même, au moins n'aurais-je pas perdu cela.
Est-ce que vous me permettez d'émettre une hypothèse à cet égard, avant que vous disiez la vérité à ce sujet? L'hypothèse est la suivante. Socrate fait valoir le point de vue qui est le sien, précisément parce qu'il ne se prive pas des plaisirs en question. Et qu'à cet égard, il a donc les moyens de considérer qu'il y a mieux.
Socrate est frugal, constamment frugal. S'il faut rester 2 jours sans boire et sans manger, lui seul n'en souffre pas.
Il est capable d'être frugal, mais il est capable aussi de ne pas l'être. Il est capable d'aimer les âmes, il est capable d'aimer les corps. Socrate ne se prive ni d'Agathon ni de Charmide. Il se prive d'Alcibiade, certes.
Il ne se prive pas. Il ne se prive pas. Il ne désire pas posséder charnellement Alcibiade, pas plus que Charmide ni Lysis. L'amour socratique est chaste parce qu'il n'aime que la beauté en soi. Et la beauté en soi n'existe en aucun corps, en aucune réalité sensible capable de se dégrader. Socrate n'est pas fou. Socrate n'est pas un rêveur, quoique Aristophane l'ait représenté dans Les Nuées. Socrate a remarqué, comme tout le monde, qu'ici tout change, tout lasse, tout casse. Et il a remarqué que tout plaisir se sature à mesure qu'on en jouit. De sorte qu'à mesure que j'en jouis toujours moins. Et d'autre part, jamais je ne pourrais jouir de tous les plaisirs à la fois. C'est impossible, parce que j'en suis incapable. Ce qui est frappant, c'est que Socrate ne propose jamais ses discours sur le monde intelligible, sur l'immortalité de l'âme, sur la contemplation, il ne les présente jamais comme un dogme, comme s'il en avait aucune sorte de certitude. Il les propose toujours comme des hypothèses, comme n'étant pas absolument incroyable. Après tout, ça me semble être vrai. Ça me semble être vrai. Ça a une sorte de vraisemblance. La preuve en est que lorsqu'il vient d'être condamné à mort, le voici sur le point de se séparer des disciples qui l'ont accompagné. Et que leur dit-il ? Ah, mes pauvres agneaux, vous restez dans ce pauvre monde, je vous plains. Moi, je prends le premier train qui passe, j'ai de la veine. Non, non. Il leur dit, voici le moment de nous séparer. Vous pour vivre, et moi pour mourir. De vous et de moi, désormais, qui a la meilleure part ? Adelon Panty. Dieu seul le sait.
Mais c'est à ses juges qu'il dit ça.
Non, non. Il le dit à l'Assemblée. Ils sont 500 à l'avoir condamné. La Vox Populi, à une majorité accrue, a condamné Socrate à mort. Parmi cette foule, il y a quelques-uns de ses disciples, dont Phédon, etc. Et bien,
mais
voilà.
Mais parce qu'au moment de mourir, quand il parle
quand
à ses disciples.
Au moment de mourir, pardonnez-moi. À la fin.
De l'apologie de Socrate. On n'est pas dans le Phédon, on est dans l'apologie de Socrate.
À la fin de son jugement. Lorsque les gardes sont sur le point de l'amener dans la prison, et bien voilà. Le jugement est rendu, il m'emporte, je vais vers la mort. Par 2 ou 3 fois, Socrate caractérise l'argument d'un pari. Ou bien il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Et sauf quelques plaisirs qu'on en peut fugacement tirer, tout y est à peu près décevant. Ou bien il y a une autre vie, par-delà celle-ci, dont seule notre âme pourra jouir. Et alors, il y a une chance pour notre âme de rencontrer ce qui ne laisserait plus rien à attendre, et par conséquent de connaître le bonheur, la plénitude et l'éternité. Je ne dis pas que j'ai la certitude de la seconde hypothèse, mais après tout, une vie perdue d'avance ne peut pas être perdue 2 fois. Alors, autant parier, et c'est pourquoi je crois que si nous avons une chance, si c'est qu'il existe un monde intelligible vers lequel notre âme retournera, où elle verra la beauté en tant que beauté, qui ne périra ni ne fanera jamais, et dont elle sera éternellement amoureuse.
Sauf que l'argumentaire pascalien du pari culmine dans la sentence selon laquelle si on gagne, on gagne tout, si on perd, on ne perd rien. On pourrait objecter à Socrate que dans l'hypothèse où il n'y a pas de vie après la vie, s'il perd, il perd tout. Et s'il gagne, il gagne tout aussi. Mais qu'il y a quand même la possibilité de tout perdre et qu'au fond, un tel pari est un jeu dangereux. Socrate, au moment de mourir, parle à ses disciples d'un beau risque. On est au terme du Phédon. Le Phédon est un dialogue sur l'immortalité de l'âme. Il s'attache, il s'évertue à démontrer l'immortalité de l'âme vainement. Mais comme une critique à l'avance d'ailleurs de l'argument ontologique, c'est-à-dire de l'idée qu'au fond, il ne suffit pas d'avoir l'idée de l'immortalité pour que l'immortalité s'impose à nous, comme une critique à l'avance de cet argument qui s'en prendra plus tard à l'existence de Dieu, Socrate confesse qu'il échoue à démontrer l'immortalité de l'âme. Son argumentaire culmine avec l'idée qu'au fond, mourir est un beau risque, et également avec le fameux chant du cygne dont Socrate veut croire, sans le savoir, qu'il chante non pas de tristesse, mais de bonheur. À l'approche de mourir.
Le beau risque, c'est que le monde intelligible n'existe pas, que l'âme ne soit pas immortelle et que par conséquent nous ayons renoncé à des plaisirs pour un bien que nous n'aurons jamais possédé. Lorsque vous dites « Socrate postule, exige, demande, espère qu'il y aura une vie après la vie où nous pourrions être possédés, nous unir à ce qui n'est rien à attendre, nous unir à l'absolu. » Mais ce désir d'une vie après la vie est précisément ce qui fait l'amour, vient de nous dire Diotime. Car ce que nous poursuivons dans l'amour, c'est le désir de nous survivre en un autre, de continuer notre vie en une autre vie, et par conséquent de nous transfuser en elle. Alors les uns le cherchent dans la paternité, mais les enfants ne nous appartiennent que par illusion. Les autres le cherchent en rencontrant une âme susceptible de recevoir le savoir de la leur, ou l'élan, l'ardeur de la leur, et c'est ce que fait l'éducation. C'est bien ce qui explique l'amour de Socrate pour Alcibiade, afin, c'est une chose que dit Alcibiade, ce que nous espérons dans l'amour, c'est de nous améliorer. C'est-à-dire nous rendre d'autant plus capables de trouver ce qui répond à notre attente. C'est ce que tente de faire Socrate.
Ou bien nous préparer à mourir. Venons en amont de ces considérations sur l'au-delà, l'éventuel au-delà de la vie. Il y a dans le banquet, et pour bien donner à entendre à quel point le banquet contient presque tous les problèmes que les philosophes se posent ensuite, il y a, à mon avis, à faire surgir un débat sur la question de l'étonnement. Et je voudrais qu'on en vienne à cette question, rapidement, à la faveur de l'arrivée d'Alcibiade. On sort ici des discours, Socrate vient de finir son discours, vient de raconter la naissance d'Eros, tout le monde est heureux, et arrive à ce moment-là un homme ivre qui dit à tue-tête ce que vous allez entendre en grec et en français.
Andrés χαίρετε. Με θείοντα άνδρα πανισφόδρα δέξεστε συμπότιν, ή απείουμεν αναδύσαντες μόνον αγάθωνα, εφό περίλθωμεν. Αλλά μη λέγεται αυτόθεν, επιρρητής, ισίω ή μη. Συμπίεστε ιού. Αλλά τι σημαίνει ο δε τρίτος συμπότης? Και άμα μεταστρεφόμενον αυτόν ωράν τον Σοκράτη, ειδώντα δε αναπηδήσε και υπήν, ο Ηράκλης, του τι ειν, Σοκράτης ούτος? Ελοχώ ναύ με εντάφθα κατέκησο, ως περιώθης εξέφνης αναφαίνεστε όπου εγώ όμην οικιστά σε έσεστε. Και νυν τι οικείς, και τι άφ εντάφθα κατεκλίνεις. Ο σου παρά Αριστοφάνη, ουδέι της άλλος γελίος έστειτε και βούλετε, αλλά διεμηχανήσω, όπως παρά το καλίστο τον ένδον κατακίσει.
Un instant plus tard, on entendit dans la cour la voix d'Alcibiade qui, complètement ivre, criait à tue-tête. Il demandait où était Agathon. Il voulait être conduit auprès d'Agathon. On le conduit auprès des convives, soutenu par la joueuse d'Aolos et par quelques-uns de ses compagnons. Il s'arrête sur le seuil de la pièce, portant une couronne touffue de lierre et de violette, et la tête couverte d'un tas de bandelettes, et dit « Messieurs, bien le bonsoir. Accepterez-vous qu'un homme complètement ivre se joigne à votre banquet? Ou devons-nous partir en nous bornant à couronner Agathon, ce pourquoi nous sommes venus exprès? J'arrive maintenant avec ces bandelettes sur la tête pour les faire passer de ma tête sur celle de l'homme qui a le plus de talent et qui est le plus beau, si cette expression m'est permise, et l'en couronner. N'allez-vous pas vous moquer de moi sous le prétexte que je suis ivre? Vous avez beau rire, je sais parfaitement bien, moi, que je dis la vérité. Répondez-moi sur le champ. Je vous ai dit mes conditions. Puis-je entrer, oui ou non? Puis-je me joindre à vous pour boire? » Tout le monde l'acclama et lui demanda d'entrer et de prendre place sur un lit. Agathon l'appelle. Alcibiade se dirige vers lui, conduit par ses compagnons, et se met à dénouer de son front les bandelettes pour en couronner Agathon. Comme il a encore ses bandelettes devant les yeux, il n'aperçoit pas Socrate et va s'asseoir à côté d'Agathon, entre Socrate et lui, car Socrate s'est écarté lorsqu'il a aperçu Alcibiade. Il s'assied donc près d'eux, embrasse Agathon et lui met la couronne sur la tête. C'est alors qu'Agathon prend la parole. « Serviteur, déchaussez Alcibiade pour qu'il soit le troisième à cette table. »« Parfait, » répondit Alcibiade. « Mais qui avons-nous comme troisième convive ?» En disant cela, il se retourne et aperçoit Socrate. À cette vue, il a un mouvement de recul. « Par Héraclès, lance-t-il, qu'est-il arrivé? Socrate ici ? Encore une embûche que tu me tends, couché à cette place. À ton habitude, tu surgis à l'improviste, là où je m'attendais à moins te trouver. Et maintenant, que viens-tu faire ici? Et de plus, pour quelle raison occupes-tu cette place? Bien sûr, ce n'est pas auprès d'Aristophane que tu es étendu, ni auprès d'un autre farceur qui fait rire et qui a l'intention de faire rire. Non, tu as trouvé le moyen de te placer auprès du plus bel homme de la compagnie.
C'est le mouvement de recul d'Alcibiade qui me semble important. Socrate est celui qui, philosophe par excellence, maître de philosophie par excellence, suscite chez son interlocuteur cette faculté proprement philosophique, Thomas Zane, s'étonner. Il s'agit de s'étonner. L'enjeu est de s'étonner. Reste à savoir ensuite quel est le statut de l'étonnement qu'il suscite. Et si l'étonnement qu'il éveille est soluble dans la découverte d'une vérité, ou si au contraire l'étonnement qu'il éveille a pour vocation de se renouveler tout le temps de la vie.
Dans ce soudain effroi d'Alcibiade, parce qu'Alcibiade s'est glissé auprès d'Agathon, qui a reçu le prix d'éloquence, etc., Alcibiade entre, couvert de guirlandes de lierre et de violettes, titube. Est-ce que vous acceptez un poivreau parmi vous? Vous n'avez pas fini de boire?
Levez-vous si vous voulez.
Et, mais là, ils vont se coucher, justement, et on va déchausser Alcibiade pour qu'il puisse s'étendre sur un lit. Donc, il se glisse auprès d'Agathon. Aïe, 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 c'est Socrate. Qu'est-ce qui fait l'effroi en voyant Socrate? Ah, oh, mon Dieu, c'est Socrate. Premièrement, Socrate, qui se pose en mon amoureux, va me faire une scène de jalousie puisque je viens pour séduire Agathon, puisque je viens chercher les complaisances d'Agathon. Et deuxièmement, Socrate, j'ai tant de fois entendu ses discours que je sais ce qu'il attend de moi. Et il attend de moi le contraire de ce que je fais ici. Et donc il va me faire honte de continuer à être ce que je ferais mieux de n'être pas. Voilà d'où vient l'effroi joué par Alcibiade lorsqu'il s'aperçoit de la présence de Socrate. Mais je voudrais soumettre à votre lucidité un fait constant que je relève dans la lecture du banquet, et qui est celui-ci. Quelques degrés de l'amour que nous éprouvions, qu'il s'agisse d'un beau corps, de plusieurs beaux corps, de la beauté d'une âme, de celle des belles occupations, des sciences et des vertus, etc., etc., de quelque forme d'amour que nous soyons possédés, aussitôt, l'amour nous inspire. Nous sommes comme des corybantes. Et ce qui nous inspire, là voilà ce que je soumets à votre expertise, ce sont de beaux discours. Nous nous mettons à discourir sur la jouissance, le bonheur, le désir, etc., etc. Cette notation revient 5 fois dans les 3 derniers discours, n'est-ce pas? Aussitôt qu'on est amoureux, on devient intarissablement loquace. Ce que nous dit Diotime, c'est que tous les hommes sont en... Comment dirais-je? C'est comme, si j'ose dire, comme s'ils étaient enceints, comme s'ils étaient gros. Bref, ils sont porteurs d'une attente qui ne s'accomplit jamais. Et cette attente, ce qui renvoie, évidemment, au discours sur la maïeutique dans le Tête-à-Tête. Socrate se présente comme un accoucheur. Ce qui fait les tourments, et les tourments, c'est l'Odys. Ce qui fait la douleur, le tourment, la mélancolie, l'insupportable poids de cette attente, c'est que nous n'en finissons pas, nous ne parvenons jamais à extérioriser ce qui nous est le plus intérieur. Nous ne découvrons jamais hors de nous cet objet de notre attente. Or, dans le discours, nous communiquons, et par conséquent, les autres assimilent ce qui nous est le plus propre et devient ce qui leur est propre à eux. Nous retrouvons en eux ce que nous éprouvions en nous, et c'est cette communicabilité qui fait l'échange amoureux. Je sens retentir en lui l'émotion qui est en moi, et l'émotion qui est la sienne redouble celle que j'en ai.
Mais la communicabilité dont vous parle trouve un écho dans le simple fait d'enseigner. Que recherche un professeur?
C'est de ça.
Mais que recherche un professeur quand il s'adresse à une classe? Quel genre d'émotion recherche-t-il? Évidemment, non pas la surprise facile de celui qui apprend quelque chose qu'il ignore, mais l'émerveillement de celui qui, en écoutant son professeur, découvre quelque chose qu'il savait déjà mais qu'il ne savait pas savoir. C'est ici que la maïeutique est opératoire, parce que c'est ici qu'un professeur fait accoucher celui à qui il s'adresse de lui-même, ne lui transmet pas un savoir et hétéronome qui lui viendrait d'ailleurs, mais au contraire trouve, dispose des outils, avec les outils qu'il a, les outils de la dialectique en ce qui concerne Socrate, dispose des moyens de le faire tout simplement accoucher de lui-même. Vous avez cité la maïeutique. Il faut ici rappeler une chose très importante, c'est que pour ceux qui l'ignorent, c'est que la mère de Socrate était sage-femme. Et dans le Théétète, Socrate dit exercer le même métier que sa mère. À cette différence près que sa mère accouche les femmes et les corps, alors que lui accouche les hommes et les esprits, les hommes et les âmes. Et est-ce que, au fond, de la même manière que amour et philosophe, enseigner la philosophie, ou plus exactement pratiquer la philosophie, donne inévitablement, à cet égard, envie d'enseigner comme l'amour donne envie de chanter?
Je crois, comme vous, que, ainsi compris, l'enseignement, c'est-à-dire la transfusion d'une âme dans une autre, de ce que j'ai de plus intime dans ce que tu as de plus intime. Et ce que j'ai de plus intime, c'est cette attente qui me possède. L'enseignement, compris en ce sens, est la véritable figure amoureuse chez Platon. De cela, je suis entièrement d'accord. Le monde moderne nous empêche de comprendre ces situations. Si je parle de l'amour du maître pour son disciple, du disciple pour son maître, tous les lecteurs de la Régence au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, comprendront autre chose que ce que je dis. Ils croiront que le maître est une sorte de Valmont et que le disciple est une sorte de Cécile
de Volanges. Oui.
Ce que nous attendons, c'est moins la plénitude que de transfuser quelque chose de notre vie dans une autre. Car l'essence même, mais ce n'est pas du Platon, l'essence même de la vie, c'est de se déborder elle-même. Le sens de la vie, c'est de donner la vie. On ne vit pas pour soi. La vie n'a pas son centre en elle-même, elle a son centre hors de soi. Et voilà ce qui fait la relation précisément amoureuse, peut-on dire, par analogie, du maître avec son disciple. C'est-à-dire que je vais non pas me continuer en toi, mais ma vie va déborder dans la tienne, et ce que tu accompliras de toi est quand même quelque chose de moi.
Ça n'est pas du Platon, c'est du Grimaldi. Et ça n'est pas un texte écrit, c'est une parole vivante qu'on retrouve d'ailleurs dans vos livres, cher Nicolas Grimaldi. On arrive déjà au terme de cette discussion, alors qu'elle commence à peine. Et je voudrais, à cet égard, qu'on fasse entendre un texte qui, d'une certaine manière, peut-être d'ailleurs, on ne le saura jamais, n'est pas de Platon. Mais s'il n'est pas de Platon, il lui ressemble tellement que ça n'est pas grave. C'est le peut-être apocryphe dialogue intitulé Alcibiade, dont on a parlé tout à l'heure, et dont Georges Clès va nous livrer la substance. Désormais, en tout cas, un extrait choisi, soigneusement choisi par Julien Tricard. Écoutez.
Socrate, réfléchissons donc à nous deux. Dis-moi, affirmons-nous ou non que nous voulons parvenir à l'excellence? Alcibiade. Oui. Socrate, une excellence de quelle sorte? Alcibiade. Évidemment, cette sorte d'excellence à laquelle aspirent les bons citoyens. Socrate, bon en quoi? Alcibiade. Évidemment, bon dans la gestion des affaires. Socrate, mais quelles affaires? L'équitation? Alors non, Socrate, car alors nous nous adresserions à des maîtres d'équitation. Alcibiade, parfaitement. De quelle sorte d'affaires s'agit-il donc? Quels sont ceux qui les pratiquent? Alcibiade, la fine fleur des Athéniens. Socrate, en ce cas, quels sont ceux dont tu dis qu'ils sont bons? Alcibiade, j'appelle ainsi ceux qui ont la capacité de commander dans la cité. Socrate, tu ne veux pas dire aux chevaux? Alcibiade, non, certes, mais les hommes, oui. Les hommes malades? Ah non. Ceux qui naviguent? Pas davantage. Ceux qui moissonnent? Non, non. Alors ceux qui ne font rien ou ceux qui font quelque chose? Non, je parle de ceux qui font quelque chose. Quelle chose? Essaie de me le faire comprendre. Alcibiade, eh bien, je parle de ceux qui sont en relation ou qui ont affaire les uns aux autres à la façon dont nous vivons dans nos cités. Socrate, ainsi tu parles de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes. Alcibiade, oui. Socrate, par exemple, aux célestes qui font ramer des rameurs. Non, pas du tout. Socrate, non, en effet, car cette excellence qui permet aux célestes de commander relève de l'art de la timonerie. Précisément. Mais alors, qu'appelles-tu être capable de commander à des hommes qui ont affaire à d'autres hommes? Je parle des gens qui participent aux affaires politiques et qui traitent les uns avec les autres. Voilà ceux auxquels il s'agit de commander dans la cité. Socrate, considérons maintenant une cité. Quelles sont les choses qui font, l'une par sa présence, l'autre par son absence, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle se garde en meilleur état et est mieux administrée? Alcibiade, si je ne me trompe, Socrate, c'est lorsque l'amitié entre les citoyens est présente, tandis que la haine et l'esprit de faction sont absents. Socrate, ce que tu appelles amitié, est-ce la concorde ou la discorde ? Alcibiade, la concorde. Socrate, mais quelle est-elle donc ? Ne te fatigue pas de mes questions, tâche de bien me répondre. Alcibiade, l'amitié et la concorde dont je parle, ce sont, je crois, celles qui font qu'un père et une mère qui aiment leur fils s'accordent avec lui, le frère avec le frère, la femme avec son mari. Socrate, et c'est par elle aussi que chacun est d'accord avec lui-même. Alcibiade, en effet. Socrate, crois-tu donc, Alcibiade, qu'un mari puisse s'accorder avec sa femme sur la manière de filer, lui qui ne sait pas, et elle qui sait ? Alcibiade, non, assurément, Socrate. Ainsi, certaines circonstances sont propres à la femme, d'autres à l'homme, d'après ce que tu dis. Alcibiade, mais c'est évident, Socrate. Et ce n'est pas là-dessus qu'il y a concorde entre les femmes et les hommes. Alcibiade, non. Ni amitié, par conséquent, puisque tu as identifié amitié et accord. Alcibiade, non, apparemment. Socrate, de sorte que les villes ne sont pas bien administrées lorsque chacun y fait ses propres affaires. Alcibiade, mais je crois que si, Socrate. Socrate, quoi ? Quand l'amitié n'y est pas présente ? L'amitié dont la présence, nous l'avons dit, fait que les villes sont bien administrées, ce qui est impossible autrement. Pourtant, il me semble que justement, ce qui rend l'amitié présente, c'est que chacun fasse ses propres affaires. Socrate, ce n'était pas ton avis tout à l'heure. Mais passons. En ce moment, que dis-tu ? Que sans concorde, il y a néanmoins amitié. Ou bien qu'il peut y avoir concorde sur les choses que les uns savent et que les autres ignorent. C'est impossible. Alors, qu'est-ce donc en somme que cette amitié ou cette concorde dont tu parles ? Je n'arrive plus à comprendre, ni ce qu'elles sont, ni chez qui on les trouve. Tantôt, d'après tes dires, elles m'apparaissent comme présentes, tantôt comme absentes, chez les mêmes sujets. Alcibiade, par les dieux, Socrate, je ne sais même plus moi-même ce que je dis. Et vraiment, il se pourrait bien que j'ai vécu depuis longtemps dans un état d'ignorance honteuse sans m'en apercevoir.
Bravo l'acteur.
Merci à nos deux lecteurs du jour, Georges Clès et Polydoros Vogiatsis. Merci à Julien Tricard, à qui l'on doit le montage de ces textes magnifiques. Merci à François Connac, notre réalisateur, et pour France Culture, à Andreas Jaffray et Philippe Cabon, ainsi naturellement, comme à chaque fois, aux équipes techniques du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, qui nous accueille chaleureusement, amicalement,